Chapitre 47. La scène est dans les loges. Lucien se promenait dans le foyer des Italiens comme un homme ivre. Il se voyait la fable de tout Paris. Il avait dans le duc de Rhétoré l'un de ses ennemis impitoyables et auxquels il faut sourire sans pouvoir s'en venger, car leurs atteintes sont conformes aux lois du monde. Le duc de Rhétoré savait la scène qui venait de se passer sur le perron de l'hôtel de Grandlieu. Lucien, qui sentait la nécessité d'instruire de ce désastre subi son conseiller privé intime actuel, craignit de se compromettre en se rendant chez Esther, où peut-être il trouverait du monde. Il oubliait qu'Esther était là, tant ses idées se confondaient. Et au milieu de tant de perplexités, il lui fallut causer avec Rastignac, qui, ne sachant pas encore la nouvelle, le félicitait sur son prochain mariage. En ce moment, Nucingen se montra souriant à Lucien et lui dit « Fûlez-vous me faire le plaisir de venir voir Montame de Jambi, qui feut vous invider elle-même à la bandaison de notre grémaillère ?»« Volontiers, baron, » répondit Lucien, à qui le financier apparut comme un ange sauveur. « Laissez-nous, » dit Esther à M. de Nucingen quand elle le vit entrant avec Lucien. « Allez voir Madame de Valnoble que j'aperçois dans une loge des troisièmes avec son nabab. Il pousse bien des nababs dans les Indes, » ajouta-t-elle en regardant Lucien d'un air d'intelligence. « Et celui-là, » dit Lucien en souriant, « ressemble terriblement au vôtre. »« Eh !» dit Esther en répondant à Lucien par un autre signe d'intelligence tout en continuant de parler au baron. « Amenez-la-moi avec son nabab. » Il a grande envie de faire votre connaissance. On le dit puissamment riche. La pauvre femme m'a déjà chanté je ne sais combien d'élégies. Elle se plaint que ce nabab ne va pas. Et si vous le débarrassiez de son leste, il serait peut-être plus leste.
Funubron et donc bire des folères, dit le baron.
Qu'as-tu, mon Lucien ? Dit-elle dans l'oreille de son ami, en la lui effleurant avec ses lèvres dès que la porte de la loge fut fermée.
« Je suis perdu. On vient de me refuser l'entrée de l'hôtel de Grandlieu sous prétexte qu'il n'y avait personne. Le duc et la duchesse y étaient et cinq équipages piaffaient dans la cour.
« Comment, le mariage manquerait ?» dit Esther d'une voix émue, car elle entrevoyait le paradis.
« Je ne sais pas encore ce qui se trame contre moi. »«
Mon Lucien !» lui répondit-elle d'une voix adorablement câline. « Pourquoi te chagriner ?» Tu feras un plus beau mariage plus tard. Je te gagnerai deux terres.
Donne à souper ce soir, afin que je puisse parler secrètement à Carlos, et surtout invite le faux anglais et la Valnoble. Ce nabab a causé ma ruine. Il est notre ennemi. Nous le tiendrons et nous...
Mais Lucien s'arrêta en faisant un geste de désespoir.
Eh bien, qu'y a-t-il ? Demanda la pauvre fille qui se sentait comme dans un brasier.
« Oh, Madame de Sérisy me voit !» s'écria Lucien. « Et pour comble de malheur, le duc de Rhétoré, l'un des témoins de ma déconvenue, est avec elle. »
En effet, en ce moment même, le duc de Rhétoré jouait avec la douleur de la comtesse de Sérisy.
« Vous laissez Lucien se montrer dans la loge de Mademoiselle Esther ?» disait le jeune duc en montrant et la loge et Lucien. « Vous qui vous intéressez à lui, vous devriez l'avertir que cela ne se fait pas. On peut souper chez elle, on peut même y... Mais en vérité, je ne m'étonne plus du refroidissement des grands lieux pour ce garçon. Je viens de le voir refuser à la porte sur le perron.
Ces filles-là sont bien dangereuses, dit Madame de Sérisy, qui tenait sa lorgnette braquée sur la loge d'Esther.
Oui, dit le duc, autant pour ce qu'elles peuvent que pour ce qu'elles veulent.
« Elles le ruineront, » dit Madame de Sérisy, « car elles sont, m'a-t-on dit, aussi coûteuses quand on ne les paie pas que quand on les paie. »«
Pas pour lui, » répondit le jeune duc en faisant l'étonné. « Elles sont loin de lui coûter de l'argent, elles lui en donneraient au besoin, elles courent toutes après lui. »
La comtesse eut autour de la bouche un petit mouvement nerveux qui ne pouvait pas être compris dans la catégorie de ses sourires.
« Eh bien, dit Esther, viens souper à minuit. Amène Blondet et Rastignac. Ayons au moins deux personnes amusantes
et ne soyons pas plus de 9. Il faudrait trouver un moyen d'envoyer chercher Europe par le baron sous prétexte de prévenir Asie, et tu lui dirais ce qui vient de m'arriver, afin que Carlos en soit instruit avant d'avoir le nabab sous sa coupe.
« Ce sera fait, » dit Esther.
Ainsi, Peyrade allait probablement se trouver, sans le savoir, sous le même toit avec son adversaire. Le tigre venait dans l'antre du lion et d'un lion accompagné de ses gardes. Quand Lucien rentra dans la loge de Madame de Sérisy, au lieu de tourner la tête vers lui, de lui sourire et de ranger sa robe pour lui faire place à côté d'elle, elle affecta de ne pas faire la moindre attention à celui qui entrait. Elle continua de lorgner dans la salle. Mais Lucien s'aperçut, au tremblement des jumelles, que la comtesse était en proie à l'une de ces agitations formidables par lesquelles s'expient les bonheurs illicites. Il n'en descendit pas moins sur le devant de la loge, à côté d'elle, et se campa dans l'angle opposé, laissant entre la comtesse et lui un petit espace vide. Il s'appuya sur le bord de la loge, y mit son coude droit et le menton sur sa main gantée. Puis il se posa de trois quarts, attendant un mot. Au milieu de l'acte, la comtesse ne lui avait encore rien dit et ne l'avait pas encore regardé.
« Je ne sais pas, lui dit-elle, pourquoi vous êtes ici? Votre place est dans la loge de Mademoiselle Esther. »
« J'y vais, » dit Lucien qui sortit sans regarder la comtesse.
« Ah, ma chère, » dit Madame de Valnoble en entrant dans la loge d'Esther avec Peyrade, que le baron de Nucingen ne reconnut pas. « Je suis enchantée de te présenter M. Samuel Johnson. Il est admirateur des talents de M. de Nucingen. »
« Vraiment, monsieur ?» dit Esther en souriant à Peyrade.
« Oh, yes, beaucoup !» dit Peyrade. « Eh bien, baron, voilà un Français qui ressemble au vôtre, à peu près comme le bas breton ressemble au bourguignon. Ça va bien m'amuser de vous entendre causer finance. Savez-vous ce que j'exige de vous, monsieur Nabab, pour faire connaissance avec mon baron ?» dit-elle en souriant.
« Oh, j'ai vos merci !» « Vous me présenterez au sœur baronnet. »
Oui, reprit-elle, il faut me faire le plaisir de souper chez moi. Il n'y a pas de poids plus forte que la cire du vin de champagne pour lier les hommes. Elle scelle toutes les affaires, et surtout celle où on s'enfonce. Venez ce soir, vous trouverez de bons garçons. Et quant à toi, mon petit Frédéric, dit-elle à l'oreille du baron, vous avez votre voiture? « Courez rue Saint-Georges et ramenez-moi Europe. J'ai deux mots à lui dire pour mon souper. J'ai retenu Lucien, il nous amènera deux gens d'esprit. »«
Nous ferons poser l'anglais, » dit-elle à l'oreille de Madame de Valnoble. Peyrade et le baron laissèrent les deux femmes seules.